ça,
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 ça, ça,
c'est jazz.
Bebop,
free jazz,
jazz rock,
big band,
hard bop,
ethno jazz,
swing,
jazz manouche,
jazz fusion,
bossa nova,
cool jazz,
jazz vocal,
ça,
ça,
ça c'est jazz,
ça c'est jazz.
Et salut à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio Saint-Ave. Salut Bruno.
Salut Nico et bienvenue dans Ça c'est jazz.
Alors, pour cette émission, Bruno a dépoussiéré ses vieux vinyles.
Ouais, hein, je suis allé chercher dans les fonds d'armoire.
Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il nous a déniché, Bruno ?
Eh ben, des vieilleries. Des vieilleries en vinyle que j'ai frottées et tout, machin, pour qu'ils brillent. Et y a des vieux trucs qui datent de 1924, des choses comme ça. Je dis, c'était un peu rigolo d'aller fouiller là-dedans. C'est rare qu'on fasse ces explorations-là. Mais c'est un peu la naissance du jazz, quoi.
Ouais, carrément. Alors, du coup, on va passer des morceaux à partir des années 20, tu dis, jusqu'aux années 50, 60, à peu près,
ouais, 50. Les derniers, ça va être 52, 53. On va commencer par un vieux truc, Big Spider Baker. Enfin, des choses comme ça, des choses très anciennes. Qui sont l'origine du jazz, qui ont donné au départ le ragtime et puis qui ont évolué dans le temps. Et moi, je me suis dit que c'était marrant de travailler un peu tout ça parce qu'on écoute beaucoup dans notre émission de jazz un peu moderne.
Ouais.
Mais il n'est pas venu de n'importe où.
Non, c'est sûr. Alors, on va commencer avec Scott Joplin.
Ouais.
Scott Joplin, plus du ragtime que du jazz.
Ouais, ouais, c'est carrément le papa du ragtime. Scott Joplin, il est né en 1868, hein, c'est quand même pas hier, hein, y a pas à dire, quoi.
Donc il est pianiste, compositeur.
Ouais, pianiste, compositeur, les parents musiciens et tout ça. Il a fait pas mal de standards du ragtime qui sont très connus.
Ouais. Il faut dire qu'il a eu plus de succès, malheureusement, après sa mort que de son vivant, puisque Scott Joplin a été remis au goût du jour dans les années 70 avec le film L'Arnaque.
Avec L'Arnaque, voilà, ouais. Ouais,
dans lequel jouent Robert Redford et Paul Newman.
Paul Newman, c'est
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, bah oui, c'est, il est mort dans la misère. En fait, il a publié énormément. Il a publié aussi des méthodes de piano. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça se vendait super bien. Toutes ses partitions allaient très bien, sauf qu'il était payé 1 cent.
Ouais.
Par partition.
Ouais,
donc c'était la misère. Donc il a crevé de faim. Il a fini, c'est un peu dramatique, à 48 piges, mort de la syphilis, schizophrène dans un HP. Enfin,
ouais, d'accord.
Pas terrible, quoi. Sa femme est morte, elle avait 21 ans.
Ah, c'est sympa. Enfin, ouais, heureusement que sa musique n'est pas dans le même état d'esprit.
Non. D'ailleurs, ça fait un sacré contraste. Une vraie vie de merde et une musique super joyeuse.
C'est clair. Et du coup, on a choisi en plus le morceau qui s'appelle The Entertainer. Donc c'est pas mal.
Ouais, vous allez tous le reconnaître.
Ouais. Hein. C'est parti,
on s'écoute ça. Entertainer.
C'était le morceau The Entertainer de Scott Joplin dans la version orchestrale de la musique du film L'Arnaque.
Voilà, tout à fait. Ouais. Il a écrit ça en 1900. Hein.
Ouais.
C'est quand même pas d'hier, quoi.
Non, et ça sonne bien. C'est vrai que c'est une mélodie qui nous reste bien en tête.
Et ça. Bah ouais, puis qui a fait, hein, depuis qu'il a parcouru, qu'on entend, tout le monde connaît ça. C'est marrant, alors que c'est super vieux, c'est vraiment resté, quoi. C'est
ouais.
Génial, quoi.
Et donc là, on est dans le ragtime.
C'est vraiment le ragtime, c'est vraiment le père du ragtime. C'est vraiment lui qui a amené ce jeu, avec toute le peu de culture musicale qu'il avait. En fait, il a créé vraiment cette espèce de style, ce mouvement, qui a été énormément suivi, hein, et on le retrouve encore après, dans tout ce qu'on va écouter, on trouve toujours cette base quand même, et qui évolue lentement vers le swing. On va vite se rendre compte, il y a un moment donné, on se dit, heureusement le swing est arrivé, on ne se demande pas pourquoi ils l'ont inventé, vous allez voir. On va continuer avec Bix.
Ouais, Bix Beiderbecke.
Ouais,
bravo, tu vois, je me suis pas planté, c'était
mal,
dur,
hein,
parce que
mal.
En préparant l'émission, j'arrêtais pas de fourcher sur ce nom. Beiderbecke. Bon, Bix, c'est facile. Hein, ça vient
ouais.
de Bismarck, le prénom de son père, et ils ont choisi de lui attribuer ce prénom en diminutif, Bix.
D'accord, ok.
Ouais. Donc là, on est,
cornet,
ouais, c'est ça, du cornet, on est dans une autre forme de jazz primaire, si je puis m'exprimer ainsi,
ouais.
Le jazz Dixieland.
Ouais, ouais, c'est plus du Dixieland déjà, ouais, c'est un peu l'évolution de tout ça, hein. Et Beiderbecke, en fait, il a beaucoup joué avec un seul ensemble, qui était un peu sa bande de potes, qu'il a rencontré assez jeune, le Wolverine Orchestra, et il a tourné. Ses succès, en tout cas, ont été essentiellement avec cette formation-là, même s'il a joué avec pas mal de monde, hein, aussi, mais...
Ouais. Autodidacte, Bix Beiderbecke, et donc cornettiste, tu l'as dit, il a développé, en écoutant des morceaux, en regardant jouer des musiciens, un jeu assez particulier, une technique de jeu qui lui était propre, et qui surprenait en fait les gens qui venaient le voir en concert, qui essayaient de savoir comment il arrivait à jouer de cette manière.
Ouais, apparemment une technique pas très orthodoxe. Hein.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Pas très orthodoxe. Mais ça marche, hein, parce qu'il a joué, il a tourné longtemps, et surtout, il a vraiment marqué une époque. Beiderbecke, tous les trompettistes, ils se revendiquent de Beiderbecke en disant... C'est une base, quoi.
Il fait partie aussi de ces musiciens blancs, ces rares musiciens de jazz blancs à l'époque, qui ont permis, qui ont contribué de rendre la musique jazz populaire pour un public, pour un public blanc aux États-Unis, alors que c'était encore une musique essentiellement jouée et écoutée par des Noirs américains.
Ouais, tout à fait. Et alors, en plus de ça, je crois que Beiderbecke, si je ne me trompe pas, il est né... Il est mort, du moins, il a 23, 24 ans.
Il est
ans.
Né et il est mort.
J'ai donné la date de naissance.
C'est déjà une bonne info, ça.
Mais il est mort super jeune, hein. Je crois que c'est 24, 25 ans, et entre-temps, il a réussi à marquer jusqu'à maintenant.
Ouais, on n'était pas encore à une époque où on faisait carrière grâce à la musique jazz.
Ah non.
Ouais,
non.
Pas mal de galères, quoi. C'est vrai que la plupart donnaient des cours de musique, écrivaient des partitions, comme tu le disais tout à l'heure, vendaient des partitions...
Ouais. Il faut pas oublier que c'est l'époque encore, ces années-là, aux États-Unis, l'alcool est interdit, il y a la prohibition qui est en vigueur.
C'est vrai.
Les Noirs sortent de l'esclavage à peine et ils se battent juste pour arriver à jouer. Et ils jouent en général dans des caves pourries où ça pue et où régulièrement les flics blancs peuvent venir et jeter tout le monde dehors.
C'est vrai.
Comme ça, en un claquement de doigts. Enfin, on se rend pas compte l'ambiance qu'il y avait à cette époque-là, pour arriver à jouer des trucs aussi gays, c'est malheureux, mais c'est qu'ils avaient vachement chié avant.
Ouais, mais bon,
parce que malgré
c'était
tout,
c'était une manière justement de se défouler, de prendre du bon temps, malgré le contexte sociopolitique de
l'époque. D'ailleurs, on va prendre du bon temps
quoi.
En écoutant Beiderbecke.
Allez, c'est parti. Oh, baby. Thank you. Vous êtes toujours à l'écoute de Ça c'est Jazz sur Radio Sainte-Afrique dans une émission consacrée au vieux vinyle de fond de tiroir de Bruno.
Ouais, c'est
donc
ça,
ça ouais. grésille, mais c'est sympa, j'aime cette ambiance.
C'est rigolo, j'ai un tiroir qui date de 1925, c'est pas mal quand même. Ouais, ça grille. Bah ouais, c'est des vieux vinyles quoi, hein, qui craquent forcément, on passe pas à travers.
Non, enfin, faut dire que l'enregistrement original doit craquer un peu quand même aussi quoi.
C'est clair, il y a pas mal de disques où en fait, c'est des bandes collector qui ont été retrouvées après. Et il écrit sur le disque que les enregistrements parfois sont en mono ou alors, il y en a certains, on verra un peu plus tard. Il y a des endroits où on entend brasser dans les bars derrière. Enfin, c'est assez infernal. C'est assez génial.
Ouais, carrément. Et du coup, est-ce que tu parles de ça, de la musique qui se joue dans les bars? C'est vrai qu'on l'oublie, mais le jazz était quand même une musique pour danser.
Essentiellement.
Ouais, à l'époque.
Essentiellement. Bah ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut bien s'imaginer cette musique-là qu'on vient d'entendre dans une cave. Avec des gars qui jouent avec la banane jusqu'aux oreilles, et puis des gens qui dansent, qui dansent avec des tables et qui dansent à fond, quoi.
Ouais.
Et là, dans ce qu'on va continuer, c'est un petit peu différent avec Chic Webb, qui est un batteur. C'est vraiment l'époque grand orchestre, presque music hall. Enfin oui, c'est même music hall.
Ok.
Voilà, dans ce qu'on va entendre, il y a 4 sax, 3 trompettes, 2 trombones, piano, basse, guitare et batterie.
Ouais, big band quoi.
Big band, c'est vrai. Mais c'est marrant, piano et guitare. Donc le support rythmique, enfin mélodique, harmonique est vachement important.
Ouais.
Étonnant quand même.
Ouais, mais il faut que ça envoie, j'imagine.
Il faut que ça pousse quand t'as 4
oui,
sax.
Ça, ouais.
Tu vois, faut y aller quoi.
Ouais, il y avait pas l'amplification de l'époque, donc pour que les gens puissent, enfin que ça entraîne les gens pour pouvoir danser, il faut que ça soit rythmé, il faut que ça soit péchu, il faut que
c'est
du corps.
Voilà, t'as vu dans le morceau précédent, c'était aussi à la rythmique, il y a un banjo. Les banjos, tu sais, les banjos 4 cordes qu'ils envoient en pompe, parce que là c'est limite percussion quoi. Parce qu'il faut envoyer du tempo pour que les mecs ils dansent, c'est la joie, c'est yo yo, on y va quoi.
Donc Chic Webb, tu disais batteur, chef d'orchestre également.
Ouais.
Quel la particularité d'avoir un handicap.
Ouais.
Il était atteint de nanisme et a priori aussi bossu, ce qui ne l'empêchait pas de jouer très bien de la batterie. Et il était reconnu pour son sens du tempo, justement, qu'il arrivait à insuffler dans les orchestres dans lesquels il jouait, qui était quelque chose que les musiciens appréciaient, mais les danseurs aussi.
Donc, les danseurs aussi,
ouais. Voilà, et quelqu'un qui avait la frite et qui envoyait vraiment...
Ah ouais, tout ce qu'on lit sur lui, il revient ce mot-là. Un tempo incroyable pour les musiciens et pour les danseurs, comme tu dis. C'était vraiment très important à l'époque, quoi. Du coup, on se l'écoute, hein, le petit Chic Webb, il sort... Enfin, petit, juste seul, ouais, j'ai fait...
Ouais, bah c'est... ok, ouais. Bon, allez, c'est parti, on est sur le dance floor.
Mais moi, j'ai le droit, hein.
Ouais, c'est ça. C'était notre caution, Bruno, merci. Allez, Chic Webb.
Thank you.
Chic Webb, c'est bon ça. T'as vu, Phil, la fin, c'est presque rock'n'roll qu'il y a à la main.
Et ouais, c'était en 1937.
Ouais.
1937, Sugar Foot Stomp. C'est quelque chose, hein, quand même. Hein, on sent qu'il y a de l'énergie.
Ouais, et comme on disait en écoutant le morceau là, hors antenne, c'est vrai que là, on commence à rentrer dans le swing. Vraiment, ouais, on le sent voilà. Bien. C'est quand même ultra rythmé. C'est fait pour danser, on l'a déjà dit. Et puis, il y a aussi cette manière de jouer avec un orchestre qui assure le fond. Et puis, de temps en temps, des chorus qui se dégagent.
Voilà,
des instrumentistes ouais. qui prennent le devant avec l'orchestre qui reste derrière pour les accompagner.
Ouais, on arrive vers la forme plus jazz, hein, où les chorus se détachent. Et puis, on écrase un peu moins le temps, quoi. C'est un peu moins au fond, ouais, c'est vivant, quoi. Et d'ailleurs, on peut se rendre compte sur un second morceau du même Chic Webb.
Et ouais,
si quand on dit filet OK, on va se faire Tea for Two, que vous connaissez tous.
For You and Me. Ça, c'est jazz. Ça, c'est carrément jazz, ouais. Ça, c'est swing.
Carrément, c'est swing, ouais, c'est clair. C'était Tea for Two de Chic Webb.
Ouais, et donc, on ne peut pas écouter ça sans penser à la grande vadrouille, quand même.
Ben, forcément, hein, on les voit dans leur bain, là, avec la vapeur partout.
C'est
forcément. Bon, des bobines, un petit hommage à vous, là. Hein.
Salut, les gars, ouais.
Ouais, vous connaissez bien ça, les mecs.
Alors, on passe à un... Puisque j'ai ma caution avec moi, je vais me permettre, on passe à un autre handicapé de la musique jazz, avec Django Reinhardt.
Et ouais, confrère. Et bon, on est en 1937, hein. 1937, 37, 39, par là, Django, il arrive sur scène. Et dans le morceau que je vous propose, qui s'appelle Sweet Sue Just You, y a une particularité, c'est que, bah, évidemment, lui, il a la guitare, mais on a Michel Varlop au violon, et on a Stéphane Grappelli au piano.
Ouais,
on n'est pas très habitué à l'entendre.
Voilà, c'est ça, normalement, c'est un violoniste.
Ouais. Ça change un peu.
Ça change un peu et c'est très bien. Et là, c'est vraiment l'émergence de la musique jazz en France quand même aussi, Django Reinhardt.
Ça, c'est vraiment l'arrivée du jazz en France. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que là, c'est vraiment l'époque où en France, on voit arriver toute cette nouvelle musique qui déboule là. Et en France, on n'a pas cette pression américaine du racisme.
Ouais, tout à fait.
En France, ça n'existe pas. Ça,
à l'époque.
À l'époque. Bah ouais, on a inventé. Bref.
Ouais.
d'un petit bouquin que je vous conseille de lire là, sur cette époque qui s'appelle La rage de vivre de Milton Mesro, qui est un clarinettiste.
Okay.
Et il raconte que quand il arrive en France, Meslow, dans les années 30, il découvre que les catalogues des grandes maisons de disques sont, en fait, en France, pas édités s'il s'agit de musiciens noirs.
C'est-à-dire
qu'en France, on apporte les disques de jazzmen blancs et pas les disques de jazzmen noirs. C'est quand même fou. Alors qu'aux États-Unis, on arrive à les trouver. Et lui, il est furieux. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il fait des caisses de vinyle qu'il envoie en France à des musiciens pour faire connaître la musique noire en France. C'est fou quand même.
Ouais, puis ça marche bien. Ouais, carrément. Ouais. Et ça marche bien, ça prend.
Ça prend super bien.
Là, c'est aussi les premiers clubs de jazz à Paris, le Hot Club notamment, et dans lequel joue Django.
Voilà, le Hot Club.
Stéphane Grappelli,
ça. Ouais. Et là, c'est vraiment une espèce de renouveau un peu où il y a des choses nouvelles qui arrivent par le passé. Par le passif, dirais, manouche.
Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. On est toujours dans le swing, dans de la musique swing. Ouais. Et en même temps, il y a cette touche-là qui donnera après, plus tard, le jazz manouche. Parce qu'à l'époque, on l'appelle pas vraiment comme ça encore.
Et non, c'est le swing à l'époque.
Non, c'est ça, c'est vraiment le swing. Mais voilà, en tout cas, ça va influencer de nombreux musiciens. Et c'est encore une musique qui influence de nombreux musiciens aujourd'hui et de nombreux guitaristes.
Ah ouais, elle a fait des petits lumières. À l'époque, on est encore vraiment dans la danse.
Ouais, c'est vrai.
Carrément.
C'est vrai, les clubs de jazz sont faits pour danser.
C'est génial.
Ouais, c'est cool.
C'est génial. Alors, un petit Django, Sweet Sue, Just You.
Django Reinhardt, ça envoie grave, c'est très rythmé comme jeu, j'aime bien. Et puis cette attaque là, ça y va quoi.
Ouais. Alors Django, donc je le répète, hein, Michel Verloppe au violon, Louis Vola à la basse, évidemment Django à la guitare, et Stéphane Grappelli au piano. Voilà, c'était un beau petit morceau, pas mal. Et je propose qu'on enchaîne avec un autre guitariste.
Ouais.
Charlie Christian. Ouais, c'est marrant.
Donc là, on repasse sur le continent américain.
Et c'est en 41.
Ouais.
Et c'est un live au Minton's Playhouse, qui est un club new-yorkais quand même super connu, où tout le monde a un peu tourné. Et il y a de l'ambiance, c'est marrant. Charlie Christian, il dirige une grosse formation aussi. C'est l'époque où il y a les Duke et tout ça, déjà, qui ont des belles formations. Hein. Tout Benny Goodman, tous ces gens-là... Là, c'est big band, ça envoie, c'est en limite du musical, comme on disait, imaginez dans tout ça, ce style de musique, il y a aussi parfois les danseurs qui arrivent, qu'on voit des claquettes, ça chante.
Ouais, c'est vrai.
Il y a des vraies mises en scène, hein. On est pas loin du cabaret, c'est le music hall, c'est des barrières du music hall, tout ça, et c'est assez génial. Quoi.
Ouais, puis c'est la période, là on est, tout à l'heure c'était 37, tu disais, Django Reinhardt, là 41, on est dans cette période de la Seconde Guerre mondiale, où du coup, la musique américaine déferle en Europe.
Complètement.
Où, vu les événements sur le plan politique, il y a besoin d'un exutoire, quoi.
Un exutoire, carrément. Ouais,
et la musique joue ce rôle-là. La musique et le cinéma, je pense, à l'époque.
Ouais, pas mal. Ouais.
Mais c'est vrai que du coup, le jazz commence à prendre une place assez importante, commence à sortir du continent américain pour se répandre un peu partout à travers le monde. Quoi.
Et ouais, et en fait, c'est rigolo, mais il y a plein de ces musiciens qui sont venus en Europe pour la première fois parce que l'État.
Ouais, tout à fait.
Leur demande à ces formations d'aller jouer pour les troupes américaines pour qu'ils se retrouvent dans un environnement un peu plus connu. Du coup, c'est bien, ça fait une arrivée massive de cette musique.
Ouais, et puis tout à l'heure, on parlait aussi du racisme aux États-Unis envers les Noirs. Et c'est vrai aussi dans la raison pour laquelle le jazz est venu, a bien pris en Europe, c'est que les musiciens noirs pouvaient jouer plus librement finalement dans des clubs, notamment en France, enfin pas que, mais en tout cas dans les pays européens par rapport aux States, quoi.
Alors souvent les Noirs.
Il n'y a pas de préjugés, quoi.
Voilà, les Noirs souvent ils apprécient bien ça, ils apprécient très bien que d'avoir été accepté en Europe, super bien. Faut pas oublier que quelques années plus tôt, on vendait les esclaves.
Ouais.
Et on trouve des articles disant « Vend jeune homme sachant jouer du violon et du cornet vendu avec son instrument ».
Ouais, sympa. Ouais.
C'est des annonces dans les journaux qu'on trouve de l'époque. C'est extraordinaire quand même, tu vois, c'est un objet, quoi.
Ouais, ouais.
C'est assez fou.
Ouais,
du
c'est,
coup,
c'est particulier. Ouais.
Ah ouais, c'est une autre époque, heureusement. Ouais,
putain, heureusement.
J'espère qu'on va pas y revenir.
Non, ça serait bien, ouais.
Bref, c'est pour bientôt. Charlie Christian,
allez.
Guitariste au Minton's Playhouse.
Thank you.
Vous êtes toujours à l'écoute de Ça c'est Jazz sur Radio Saint-Afrique. Et à la radio, on a des techniciens et qui nous rappellent que là, c'est le début de l'électrification de la guitare.
Et ouais, tout à fait. Ouais, ouais. C'est le début, c'est le début. Il a mis un micro, j'avais Christian, pour se faire entendre quand il prend des chorus.
Bah oui, c'est vrai.
Sinon, il n'y a pas
c'est
moyen.
Vrai, c'est vrai que les... au début du jazz, c'était des fanfares dans la rue. Après, on est passé à des grands orchestres dans des salles, mais pas forcément besoin d'amplification parce qu'il y avait beaucoup de monde qui jouait. Mais au bout d'un moment, si on veut développer un peu le style musical et se permettre justement de jouer des choruses,
des finesses.
Voilà, c'est ça, un peu plus de subtilité et d'entendre vraiment la particularité du jeu de chaque musicien, il faut qu'on puisse réellement les écouter. Et du coup, pour la guitare, ça devient compliqué sans amplification.
Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Et pour plein.
Enfin, pas seulement, mais entre autres, là, on parle de.
Par une contrebasse, c'est pareil, c'est des sons très graves, c'est dur à faire entendre. Après, c'est pour ça qu'on avait dans les rythmiques, par exemple, un banjo qui, du coup, est super percussif et qui cadre vachement, quoi. Hein, aussi, ouais. Mais c'est sûr que la technologie, du coup, fait avancer le style.
Et fait avancer la musique, ouais.
Avancer la musique.
Ouais, carrément.
Comme
carrément.
Quoi, ça n'a pas que du mauvais.
Bah, de toute façon, comme quoi, ça n'a pas que du mauvais. Ouais. Mais oui, puis de toute façon, aujourd'hui, ça paraît fou, mais sans technologie, la musique n'aurait pas du tout la même gueule, quoi.
Charlie Christian serait là maintenant, il ferait de la house, peut-être.
Ouais, ouais, puis remixerait ses propres morceaux pour pouvoir rejouer dessus.
C'est ça, voilà. En tout cas, avec Charlie Christian, à l'époque, déjà, il a joué avec tous les grands, avec des grands comme Dizzy, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, il y a Kenny Clarke, déjà à la batterie, hein, qui s'illustrera après dans plein d'autres formations.
Voilà, c'est un des premiers guitaristes à émerger sur la scène jazz, hein,
vraiment.
Charlie Christian. Voilà. Ouais. Tout à l'heure, on a parlé de Django Reinhardt en France et en Europe, on va y revenir d'ailleurs dans le morceau suivant. Mais c'est vrai que Charlie Christian, peut-être pas assez connu, mais vraiment très très grand guitariste jazz, en tout cas un des premiers, quoi.
Voilà, moi je dirais que Christian, ce qu'a Charlie Christian, c'est vraiment le jazz, typiquement jazz, avec le style jazz de l'époque, qui est une continuité.
Ouais, le style swing, quand même.
Voilà,
encore,
le swing, voilà. C'est la continuité swing la guitare, du swing, de ce qu'on écoute avant. Ah. Django, il a plus sa personnalité, il est connu parce qu'il a sa personnalité à lui.
Ouais.
Aussi, son côté bien coloré de aussi sa culture personnelle, quoi.
Mais sa culture et puis le jeu qu'il a dû développer, qui lui est propre, on en parlait tout à l'heure, dû à son handicap. Il faut savoir qu'il ne disposait que de deux doigts suite à un accident, suite à un incendie à la main gauche. Et que du coup, vas-y, quoi. Je mets au défi tous les guitaristes qui nous écoutent de pratiquer la guitare avec deux doigts à la main gauche, quoi.
Enfin... Je suppose que du coup, le pouce rentre en ligne de
compte. Oui, tout à fait.
Il manquait l'auricule. Manquait l'annulaire l'auriculaire.
Alors ça, Bruno, je pourrais pas dire.
C'est que l'index, le majeur, le pouce, je crois. Du coup, tous les accords sont repris différemment.
Ouais, tout à fait. Bah ouais, ça paraît.
C'est pour ça que ça. Bah d'ailleurs, on ferait peut-être bien de l'écouter.
Plutôt que d'en parler.
Plutôt que d'en causer, hein, tu vois.
Okay.
Et là, il est avec le quintet du Hot Club de France qui a fait école, hein, quand même.
Ouais, tout à fait.
Ça a été un sacré truc qui s'exportait et tout.
Ouais, c'est vrai.
On pourrait faire une émission sur Django, hein, parce qu'il y a des trucs rigolos à dire.
Bref, plus tard.
Donc on continue avec quoi, Nico?
Django Reinhardt, rythme futur.
Yes. We'll be right back.
Django Reinhardt, rythme futur. Ouais, bah ça porte bien son nom, effectivement, Bruno. Ah, c'est, assez, c'est hyper moderne.
C'est hyper moderne, en fait. Alors, bon, c'est speed, mais.
Alors, ouais, déjà, tempo surprenant. Hein, c'est...
Déjà, ouais. Ouais. Sinon, sur la structure, effectivement, ouais. On est sorti de, du swing. On est d'accord, il y a une marge avec ce qu'on a entendu avant.
Bah, sur la structure rythmique, ouais, je suis bien d'accord. Et sur. Enfin, même les, la mélodie, quoi. Sur, ouais.
La façon
c'est marrant, il y a un petit côté orientalisant aussi, là, à la fin.
Ouais, c'est, non, la façon dont il place ses couilles, mais cette espèce de phrase, hein, c'est pas anodin, c'est pas, enfin, je trouve que ça décroche de ce qu'on entendait jusqu'à
présent. Ouais, ouais, mais c'est assez expérimental, je pense, pour lui à cette époque de jouer des trucs comme ça, ouais, parce que c'est, enfin, tout son répertoire est pas du tout comme ça, quoi. C'est
ah bah non, je pense que ça sort un peu du répertoire qu'on connaît de Django. Comme quoi, il y a des perles partout.
Ouais, ouais, ouais.
C'est vachement bien.
Bah ouais, c'est clair. Et tout ça en vinyle, hein, je le rappelle, c'est
ouais.
C'est pas tout en camon, c'est tout en vinyle.
Tout en vinyle.
cette émission.
Et du coup, ça, c'était, c'était organisé dans les années 40, ça.
Ouais. Oui, j'imagine.
Ouais, et dans, bah, en même temps, dans le pub d'à côté, dans la grande rue de New York, il y avait Lester Young qui jouait à Count Basie.
Ouais, dans le pub d'à côté. Ouais,
ouais bah ouais. On passe d'un pub à l'autre, c'est génial.
Ouais, c'est ça. Lester Young n'a pas fait de séjour en France, non, non je sais pas.
Non, il n'a pas vécu en France, mais il a passé pas mal de temps, il aimait beaucoup la France. Ouais. Mais je ne pense pas qu'il y ait vécu,
non,
je crois pas.
Okay.
Je crois pas.
Et donc là, il est avec l'orchestre de Count Basie, un autre grand nom de la musique jazz, et surtout de l'époque des big bands.
Ouais, ouais. C'est une grosse formation quand même qui a perduré vachement, même après avec la crise où tout le monde galérait, il a été dans les derniers à tenir.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que, Count Basie a été l'un des grands de cette époque des big bands à avoir encore joué du jazz big band à une époque où pourtant ça paraissait révolu, voilà. Où le bebop avait déjà émergé.
Voilà.
Ouais,
même
c'est vrai.
Dizzy avait arrêté son big band, Count continuait encore.
Ouais, carrément.
Chapeau.
Mmh, oui, ouais. Chapeau, ouais.
Après, c'est sûr que quand t'as un Lester Young ténor, eh ben, tu mets la gifle là de tout le monde. Parce qu'il a quand même Lester Young, ben, c'est vrai, c'était quand même le sax qui est arrivé avec un son super rond, travaillé. C'est quand même le début de l'expression vraiment, moi, à mon avis, d'expression vraiment fine. Mmh. Dans le jazz où vraiment là il cherche à avoir du discours, une attaque, enfin, plein de choses,
donc,
travail
c'est,
un son particulier.
C'est ça, un peu une époque où les instrumentistes commencent à se démarquer des ensembles orchestraux, quoi.
Tout à fait, on avance dans le temps et du coup il y a une écoute qui avance et vous allez voir, on trouve les prémices de ce qu'on entend maintenant beaucoup plus au sax et tout ça. Moi, je vous propose un petit morceau de 1940 qui s'appelle Tickle Talk, qu'on a déjà entendu
dans une autre version.
Dans une autre version.
Ouais, tout à fait.
Mais voilà, les fidèles auditeurs diront « Oh, on connaît !» Vous mettrez un petit mot sur net, ça sera sympa.
Tickle Talk. Thank you. Vous êtes toujours à l'écoute de Ça c'est Jazz sur Radio Saint-Afrique, et pendant qu'un technicien joue avec les vinyles, l'autre s'amuse avec les bandes magnétiques. Alors c'est le bordel, même nous en studio on entend ça, enfin vous auditrices, auditeurs, ça vous échappe, mais on aime bien vous faire partager les coulisses de la radio.
Ah ouais, parce qu'ils sont pénibles à ces gars.
Ils sont pénibles, mais fais gaffe, parce que s'ils décident de couper les micros, il n'y a plus d'émission quoi.
Ça fallait mater les vieux rockers.
Ouais, les vieux rockers. Bah d'ailleurs, t'as choisi un morceau de Jerry Mulligan qui s'appelle Rocker.
Voilà, Phil, Bruno. C'est pour toi, Phil. Voilà, ta réconciliation avec le jazz devant l'éternel. Voilà. Hein, c'est pas beau, ça.
Spéciale dédicace. ouais, et donc, alors, avant de venir à Jerry Mulligan, on vient d'écouter un deuxième morceau de Lester Young accompagné par l'orchestre de Count Basie.
Ouais.
Et un morceau donc, qui s'intitulait 12th Street Rag.
Yes.
Et donc, on est encore dans le ragtime.
Ouais, dans le rag. C'est pour ça que c'était intéressant d'entendre ces deux morceaux. Tickle Toe, qui est déjà une évolution, si j'ose dire.
Ouais, tout à fait.
Mais en tout cas, l'autre morceau de Street Rag, c'est le ragtime encore, vraiment, où on sent. On retrouve ce tempo, comme on disait tout à l'heure, hein, ragtime, en fait, Nico, t'as une idée de ce que ça veut dire ?
Oui. C'est une musique syncopée, et rag en anglais, c'est déchiré en lambeaux.
Déchiré.
Donc vraiment quelque chose de très syncopé, quoi. Tac, 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 tu vois ?
Ouais, et puis souvent, c'est inscrit déjà à la ragtime, enfin, c'est...
Tac, 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 tac.
Tac, 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 voilà, c'est la façon cuisine.
Oui, c'est ça.
On découpe.
Mais alors, cuisine élaborée, parce que contrairement à des musiques genre blues, gospel, dont le ragtime s'inspire évidemment, mais c'était déjà une musique écrite par des musiciens noirs qui commençaient à avoir un peu de culture, et notamment une culture musicale, qui avaient déjà écouté des compositeurs européens du 19e, comme Chopin, donc des jeux de piano plus élaborés que des structures blues classique, et qui essayaient du coup de mixer ça avec leur héritage à eux, leur héritage culturel.
Ouais, forcément. Après, il faut oublier que Bix Beiderbecke, qu'on a raconté tout à l'heure, on disait, il ne sait pas du tout écrire, et par contre, il a produit tous les morceaux par cœur.
Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi... tout à fait, il y a aussi ces premiers musiciens-là qui jouent à l'oreille, qui évoluent dans un univers familial, très souvent dans un univers familial musical,
au départ.
Et qui donc ont des prédispositions, et qui ne sont pas passés par des écoles de musique.
Par contre, ils l'ont vécu.
Voilà, c'est ça. Et qui sont capables, grâce à la mémoire, grâce à leur sensibilité, de pouvoir jouer ce qu'ils entendent en le mémorisant et pas en le lisant, quoi.
Oui, tout à fait. Ouais. Et ça fait une musique qui avance, tout ça, hein, qui avance jusqu'en 1953 avec le Jerry Mulligan.
Donc voilà, c'est ça. Rocker, comme on disait.
Rocker. Ouais.
Bah c'est ça, c'est les années 50, on y est, quoi. Bah on risque de faire des déçus, j'imagine, mais...
Fairfield, c'est du rock. Le Jerry Mulligan, t'as tête. Jerry Mulligan, il est baryton, sax baryton. Et ça marche pas mal. Hein. Il y a trompette, Chico Hamilton à la batterie, qui a fait une grande carrière derrière aussi. Chico Hamilton, il est rigolo, il a toujours un sourire jusqu'aux oreilles, on dirait qu'il a le visage fendu en deux, il paye ce mec.
D'accord, ok. C'est le Joker, quoi.
C'est ça. En tout cas, un petit rocker, il t'est dédié, mon petit fils, c'est pour toi, Jerry Mulligan, rocker.
Thank you.
Vous êtes à l'écoute de Ça c'est Jazz, toujours sur Radio Saint-Aff, et malheureusement l'émission touche à sa fin.
Et oui, ça y est, on arrive au bout.
Ouais, on a presque épuisé les fonds de tiroir des vinyles de Bruno, quoi.
J'en ai encore 2-3, mais ils sont un peu trop abîmés quand même. Ouais. Et puis c'est tout, quoi. C'est pas
donc une émission tout en vinyle, voilà, tout en vinyle avec une petite rétrospective de la musique jazz de ses débuts. On a flirté un peu avec le Dixie, le ragtime, on est allé du côté du big band.
Et puis on est arrivé, on a avancé doucement jusqu'aux années 40-50, ouais. Voilà.
Tranquille.
Tranquillement, voilà. On vous dit au revoir.
Ouais, à bientôt, au mois prochain.
Au mois prochain.
Un grand merci à Phil à la technique, ouais, de nous supporter encore et toujours.
C'est sûr, il a tenu le choc, même avec du vieux jazz, il est trop fort.
Et
à
bah,
bientôt
ciao,
sur à Radio Saint-Anne.
Ouais, ciao.